Chapitre 36. La réputation de l'abbé Guillemite était si bien établie que Clémence resta stupéfaite en l'entendant dire qu'il ne voulait pas figurer comme légataire sur un testament. Comment ce prêtre, qui était avant tout un lanceur d'affaires et un industriel, qui était âpre à l'argent et tourmenté de besoins incessants, qui, depuis 10 ans, n'avait point passé un jour sans être en lutte avec ses créanciers, qui était justement célèbre par sa merveilleuse habileté à se créer des ressources inépuisables, qui, par la seule puissance d'une intelligence et d'une volonté audacieuse, avait su trouver des millions, qui, soutenu par la conscience de sa supériorité, s'était placé au-dessus des attaques et des calomnies, comment cet homme refusait-il une grosse donation ? Il veut faire augmenter son legs, se dit-elle, et c'est pour cela qu'il parle de nous rendre Denise. « Puisqu'il est impossible de nous entendre, dit-elle, ce que je déplore vivement, j'ai maintenant une demande à vous adresser et j'espère que vous voudrez bien me l'accorder. Soyez convaincue que j'irai au-delà du possible. C'est de garder Denise encore quelques jours au couvent de Sainte-Rutilie. Vous comprenez que, d'une minute à l'autre, nous ne pouvons pas la placer dans une autre maison. » S'il ne s'agit que de quelques jours, je m'y engage volontiers, bien que cela doive retarder mon enquête, car il va de soi que je ne puis pas parler de cette correspondance tant que Denise sera au couvent. Cherchez donc une autre maison s'il est impossible que Denise rentre au château. Ne s'inquiétant jamais des médisances ou des calomnies dirigées contre lui, l'abbé Guillemite n'admettait pas celles qui pouvaient atteindre les autres. Pour lui, Clémence était dame de compagnie du marquis de Rudemont, rien de plus, et dans ces conditions, Denise pouvait très bien habiter le château. « Cela est tout à fait impossible, dit-elle. Monsieur le marquis ne revient jamais sur ce qu'il a arrêté. Il a rompu avec Denise et son cousin, maintenant c'est fini à jamais. Aussi, cette disposition de son caractère va-t-elle rendre difficile un changement dans ses dispositions testamentaires ? Il a décidé de vous laisser un legs et je crois qu'il vous le laissera quand même. Il est parfaitement libre d'écrire dans son testament tout ce qu'il voudra. Seulement, moi aussi, je suis libre d'accepter ou de refuser. Peut-être l'importance du legs modifiera-t-elle vos idées ? Je ne crois pas. Cependant, s'il s'agissait d'une grosse somme qui vous permit de donner à votre couvent tous les développements que comporte son importance, de le rebâtir, par exemple, de façon à remplacer ces vilains bâtiments de fabrique par un monument digne de votre église. Un monument digne de son église. Lui qui avait toujours eu si violente la fièvre de la bâtisse. Un éblouissement lui troubla les yeux, il vit des grilles dorées qui lançaient des éclairs. Cependant, il eut la force de se retenir de répondre trop vite et il prit le temps de réfléchir. On avait donc bien besoin de lui qu'on lui faisait une si belle proposition. Dans quel but ? Un monument, répéta-t-il pour gagner quelques secondes de réflexion. Puis, craignant de laisser paraître son trouble, « L'emplacement ne comporte pas la construction d'un monument, dit-il. » C'est une grande folie de négliger la question de la situation quand on veut élever un édifice. Voyez notre église. Serait-elle ce qu'elle est, ailleurs que sur cette esplanade ? Il me semble qu'il y a d'autres esplanades dans la contrée. Je n'en connais qu'une qui vaille celle sur laquelle notre église est construite, c'est celle qui porte le château de Rudemont. Ah, vraiment ? L'abbé Guillemite se mit à sourire. « Et j'avoue, dit-il, que si vous avez le pouvoir de me faire donner le château de Rudemont pour y transporter et y établir notre couvent, la tentation sera tellement forte que peut-être elle me fera manquer à la règle de conduite que je me suis imposée. »« Ah, vraiment, vraiment !» répéta Clémence. Et elle se mit à sourire, mais du bout des lèvres seulement, car elle venait de comprendre qu'elle s'était imprudemment avancée et qu'elle avait commis une faute qui pourrait lui coûter cher. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent, puis l'abbé Guillemite détourna les yeux. « Parlons donc sérieusement, dit-il en ramenant sur ses genoux les plis de sa soutane, comme s'il voulait s'envelopper dedans. « Volontiers, mais je dois vous faire remarquer que mes propositions étaient tout à fait sérieuses. » Soyez convaincu que c'est très sérieusement aussi que je vous ai répondu que je ne pouvais, que je ne voulais pas les accepter, telles au moins qu'elles m'étaient faites. Depuis que je suis prêtre, j'ai été mêlé à deux affaires de testament et toutes les deux m'ont attiré les difficultés les plus graves, les ennuis les plus irritants, perte de temps, insinuations calomnieuses, procès, rien ne m'a manqué et tout cela pour arriver à des résultats mesquins. Le legs que monsieur le marquis devait vous faire n'aurait amené pour vous aucune difficulté. Jamais de difficulté lors de la confection d'un testament, toujours au moment de son exécution. Je ne peux pas maintenant perdre mon temps dans des embarras de ce genre. Je me dois aux affaires dont j'ai pris la responsabilité, à l'achèvement de mon église, à mon patronat, à mon couvent, à ma serrurerie, à mon imprimerie. Tout cela m'accable et m'écrase, car mes forces ne suffisent pas à ma peine. Je ne suis plus jeune. Si la mort me surprenait, toutes ces entreprises en ce moment prospères s'effondreraient. Dans ces conditions, vous devez comprendre que je ne sois pas homme à risquer mon temps dans des choses insignifiantes, ni à le sacrifier pour une somme d'argent. Alors renonçons à ce projet, dit-elle en saisissant avec empressement cette occasion de revenir en arrière. Renonçons-y s'il ne s'agit que du legs d'une certaine somme. Poursuivons-le, au contraire, s'il s'agit d'un véritable testament. Pour une somme d'argent, je n'irai point me compromettre ni risquer les grands intérêts dont je vous parlais tout à l'heure. Mais pour une véritable fortune qui devrait enrichir à jamais l'une de mes fondations, église, couvent, patronat, ce serait différent. Je ne me reconnaîtrai pas le droit de m'enfermer dans un refus égoïste. Vous devez sentir la différence. » Elle ne répliqua pas, effrayée qu'elle était par la tournure que prenait l'entretien. « Tenez, continua-t-il, expliquons-nous franchement, sans détour, comme sans réticence. Vous m'avez dit que monsieur le marquis de Rudemont voulait laisser sa fortune à une personne étrangère. Cela se comprend jusqu'à un certain point, puisqu'il n'a que des parents éloignés et que ses parents n'ont pas su gagner, par de l'affection et des soins, l'héritage que la loi leur accorde. Cette idée de testament en faveur d'un étranger n'a donc en soi rien de choquant, et je crois qu'une disposition de ce genre serait maintenue par la justice si elle était faite au profit d'une personne d'une moralité parfaite, au-dessus de certaines attaques par sa position, par son caractère, ou, si vous aimez mieux, par son autorité dans le monde. La personne que monsieur le marquis de Rudemont veut choisir pour légataire universel réunit-elle ces conditions ? Clémence ne jugea pas à propos de répondre. « Je n'en sais rien, continua le curé, puisque je ne la connais pas et qu'aucun indice ne peut me faire soupçonner son nom. Cependant, en m'en tenant à la logique des choses, je crois pouvoir affirmer qu'elle ne se trouve point en elle. » « Et pourquoi donc, monsieur le doyen ?»« Puisque nous nous expliquons en toute franchise, je vais vous le dire. Que monsieur le marquis ait pensé à moi pour une libéralité, cela me paraît tout naturel. » J'ai doté la contrée de plusieurs fondations pieuses qui, je le dis parce que cela est la vérité, ont produit un grand bien. Il est donc facilement admissible qu'un homme généreux comme monsieur le marquis et élevé dans des idées religieuses veuille, par un acte de dernière volonté, venir en aide à l'une de ces fondations. Telle a été son inspiration. Oh, je la devine! Mais ce qui est moins naturel, ce qu'on ne peut pas admettre avec la même facilité, c'est qu'on soit venu me parler de cette inspiration. Si l'on agit ainsi, c'est qu'on a voulu tout d'abord me consulter et savoir si, dans un procès, je me rangerai du côté du légataire universel afin d'obtenir mon legs particulier. Eh bien non, madame, non, je vous le déclare tout de suite. Pour une somme déterminée, mais en tout cas médiocre, je n'accepterai point cette sorte d'association, j'aurai trop à y perdre. Mais que les choses changent de face, que monsieur le marquis laisse sa fortune au couvent de Sainte-Rutilie, qui a une existence légale, et qui, en cette qualité, peut recevoir les legs qu'on veut bien lui faire, et j'apporte à ce testament l'appui que peuvent lui donner ma position, mon caractère, et, si j'ose m'exprimer ainsi, mon autorité. » Comme Clémence levait la main pour l'interrompre, il continua. Oh, je n'entends pas que M. le Marquis donne dès maintenant cette fortune à notre couvent. Ce que je comprendrais, ce serait qu'il en réserve à la jouissance à la personne dont vous me parliez. Nous, que nous importe de ne pas jouir dès demain de cette fortune, nous sommes éternels. À cette personne, qu'importe de ne plus avoir cette fortune dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, puisqu'elle est mortelle. Oh, voyez comme le caractère de ce testament se trouve alors changé. Ce n'est plus au profit d'une personne plus ou moins respectable qu'il est fait, mais à celui d'un établissement pieux, recommandable à tant de titres. Ce n'est plus cette personne qui doit défendre en justice ce testament et le faire triompher, c'est le couvent, et par ce couvent, elle se trouve protégée, couverte, pour ainsi dire, par son autorité sacrée. Grâce à lui, elle est assurée de jouir pendant toute sa vie d'une fortune qui, sans ce secours tout-puissant, lui échapperait certainement. Puis, après un moment de silence, « Veuillez reporter ces paroles, madame, à la personne au nom de qui vous m'avez soumis ce projet. Dites-lui bien que tel que vous m'avez présenté ce testament, je ne pourrai pas le défendre. Au contraire, dites-lui que je m'y dévouerai de toutes les forces de mon intelligence, de mon activité, de ma volonté. Dites-lui que je lui donnerai toute l'influence que je puisse avoir s'il est fait d'après les bases que je vous indique. Cette personne doit être intelligente. » Après un premier moment de déception, elle comprendra, j'en suis certain, tous les avantages de cette combinaison. Sur ce mot, il se leva pour reconduire Clémence.